6h04, mardi 23 avril. Bonne journée, bienvenue à l'antenne du 98.5 FM. Alors, c'est une belle journée en perspective. 18 degrés, c'est le maximum prévu. Généralement ensoleillé. Il y aura un peu plus de nuages tard au cours de l'après-midi. Et les vents sont très, très légers, 20 km/h. Pour ce qui est de la soirée, ça commence par du temps couvert et on aura de la pluie ce soir. Et là, on pense évidemment au secteur où déjà il y a des inondations. Alors, la pluie va se poursuivre. Ça devrait continuer demain, une bonne partie de la journée. Pluie, bruine intermittente avec un maximum de 8. Et finalement, retour du soleil qui est prévu pour jeudi, maximum 13 degrés. Quand on regarde ce bloc de prévisions, là, et on pense aux gens qui habitent dans les secteurs inondés, il y a deux phénomènes qui jouent. Évidemment, la pluie. Alors aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que dans la plupart des cas, avant la soirée, il n'y en aura pas, mais qu'il fait quand même très doux, c'est très confortable, ça amène un dégel peut-être encore plus rapide, ce qui fait que la situation, de façon globale, demeure sous contrôle, mais il y a toujours des inquiétudes, il y a toujours des incertitudes. Mais avant de parler de ce bilan des inondations, Marie-Laurence nous racontait l'histoire d'une tristesse de cet enfant de 5 ans qui est mort noyé dans une piscine à Pierrefonds. Et j'ai reçu pendant la pause un courriel d'un voisin, celui qui est intervenu. C'est encore plus bouleversant. Je vais me permettre de vous le lire sans identifier évidemment cette personne. En disant, c'est moi qui ai sorti les deux enfants de l'eau. Je viens d'apprendre la nouvelle concernant le plus jeune. Je me sens tellement impuissant. L'eau était tellement trouble que je ne trouvais pas les enfants. J'ai mis plusieurs minutes à le trouver pendant que mon épouse réanimait le grand frère. Puis quand je l'ai sorti, elle a immédiatement commencé la réanimation sur lui pendant quelques minutes jusqu'à l'arrivée des policiers et des ambulanciers. Et non, la piscine n'était pas clôturée. Alors, je peux comprendre, mais il a tout fait, ce monsieur, et sa conjointe également, pour sauver les enfants. Alors, je rappelle que celui de 5 ans est décédé, et le plus grand frère, lui, demeure dans un état extrêmement critique à l'hôpital. Bon, les inondations, il y a quelques conclusions qu'on peut tirer jusqu'à maintenant. D'abord, c'est sûr qu'on a devant nous une situation qui est récurrente, c'est-à-dire que le bilan là, de Urgence Québec, là, c'est grosso modo 3000 maisons qui ont été inondées, 1600 personnes qui ont dû être évacuées. Puis, comme d'habitude, il y a des gens qui décident de rester sur place. Mais on peut dire que, de façon globale, si on compare à 2017, les ministères impliqués, parce qu'il y en a plusieurs, là, ont fait un job très correct de préparation pour tenter de limiter les dégâts. C'est sûr que l'épicentre des inondations, ça demeure la Beauce. Avec Beauceville, Sainte-Marie, c'est là qu'on retrouve un noyau important, là, et la rivière Chaudière qui demeure menaçante. Dans la région de Montréal, il y a, je pense à Rigaud, d'autres endroits, ce matin, c'est comme stand-by. C'est-à-dire qu'on a vu la crue des eaux, on observe le niveau de l'eau, on voit un peu comment ça va se profiler pour les prochains jours, puis la menace demeure. Mais on peut dire que, et on chiale souvent contre le gouvernement dans ces cas-là, la job est bien faite jusqu'ici. D'abord, l'armée a été déployée plus rapidement que d'habitude. C'est peut-être parce qu'on est en année électorale aussi, hein, au fédéral. Et là, les gens se posaient la question, pourquoi est-ce que l'armée n'est pas allée en Beauce? Pourquoi est-ce qu'on a déployé les militaires ailleurs? C'est que la réponse de l'armée est assez simple. On va aller à des endroits où on nous demande d'aller et où on peut être efficace. Et je sais qu'il y a des militaires qui sont allés en Beauce, là, c'est pas hier, c'est peut-être dimanche, là, mais ils sont allés quand même voir comment ils pouvaient aider. Puis comment ils peuvent aider, ben c'est pour les sacs de sable, puis Zodiac pour pouvoir transporter des gens, puis surtout rassurer. Parce que un des rôles de l'armée dans une crise comme celle-là d'inondation, c'est le côté rassurant. C'est d'être présent. On est là. Si on peut vous aider, on va le faire. Et je pense que c'est aussi important que le reste dans cette situation. Et François Legault a lancé le vrai débat. Parce qu'on sait que les inondations reviennent souvent presque à chaque année. Il y a des gens qui sont inondés sur 5 ans, deux fois, avec un degré d'intensité. Il y a un auditeur qui m'écrivait en fin de semaine, « Monsieur Arcan, moi... l'eau monte pas plus que dans le sous-sol. Fait que je suis correct. » Mais tu sais, tu te rends compte ce que ça veut dire après, comme travaux. C'est dégueulasse être inondé, là. J'ai pas besoin de faire un dessin là-dessus. Et François Legault dit, quand c'est récurrent, quand l'État indemnise sur une base presque régulière des gens, la question qu'il faut se poser, seriez-vous mieux de quitter, de vendre votre maison? Et là, il n'y a pas de réponse, là, oui, non. Il y a un paquet de questions qui sont reliées à ça. Et je sais que le premier ministre a nuancé un peu hier en disant qu'il voulait lancer la réflexion. Mais c'est pas banal ce qu'il a fait, là. Puis il a parfaitement raison de dire, un, il y a des gens qui vivent dans des secteurs inondables, où le degré de risque est très élevé. Puis il faut continuer à faire l'inventaire. Quelles sont les zones qui sont les plus à risque au Québec? Qui vit dans ces zones-là? Et comment on peut amener les gens à quitter? Il y a des gens qui vont, parce qu'on parlait d'une somme de 200 000 $ il y a des gens qui vont se faire offrir des montants puis qui vont dire que ce n'est pas suffisant. Puis jusqu'où on va payer? J'entendais une des hypothèses, c'est de dire, bien, quand tu auras reçu 100 000 $ du gouvernement pour des travaux, pour te trouver une chambre à l'hôtel, bien, après 100 000, là, il y a un moment donné, il y a une limite. Et je sais, là, les villes, dans l'histoire, ont permis de construire dans des zones inondables, avec tous les problèmes qu'on connaît. Puis on sait qu'avec les changements climatiques, ces phénomènes-là vont s'accentuer dans le futur. Alors, je pense que le PM a parfaitement raison de vouloir faire ce débat. Puis il y a devant lui des endroits, je pense à Rigaud, je pense à... Tu sais, Beauceville, tu fais quoi, là? Est-ce qu'on va construire une digue pour empêcher l'eau? Là, on parle du centre-ville, là, qui est touché. Méchante bonne question. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont dit « je partirai jamais, je vendrai jamais », peut-être. Mais est-ce que les contribuables vont devoir payer la facture à chaque fois que vous êtes inondé? Puis ça, je pense que... Tu sais, on parle pas de « act of God » là, qui arrive, puis tu dis là, on est dans un secteur où on pensait pas que ça pouvait arriver. La réalité, c'est que vous avez peut-être acheté dans un endroit où il n'y avait pas de problème, puis progressivement, ben, on se retrouve justement avec des problèmes. Et on va en avoir de plus en plus de ces situations. Mais cette année, là, il faut saluer les bénévoles, les policiers, les ambulanciers, les gens de la sécurité publique, ministère de l'Environnement, qui font un très bon job. Et je pense qu'on s'est mieux préparé qu'en 2017. 2017, on était dans le festival de l'improvisation. Là, c'est quand même un peu plus structuré. 6h12 marque les points chauds. Merci beaucoup. Et juste pour conclure sur le dossier des inondations, des changements climatiques, dans une entrevue à la presse canadienne, le président de Hydro-Québec, Éric Martel, se dit préoccupé parce que ça coûte cher à Hydro, les changements climatiques. C'est-à-dire que, par exemple, pour ce qui est des pannes, on a connu là avec le verglas et tout ça, on a atteint facilement 165 millions pour ce qui est du temps supplémentaire lors des pannes de courant. Et il ajoute également que le budget pour le nettoyage des arbres, des branches, est passé de 65 à 73 millions en l'espace d'un an. Puis juste vous rappeler qu'on avait cette discussion-là justement au moment des épisodes sur la couronne nord de Verglas, où des gens, puis pas juste des gens qui vivent dans le coin, mais des techniciens de d'autres compagnies d'utilité publique, là, qui faisaient le constat. Et Hydro-Québec a fini par l'admettre qu'il y avait une croissance plus rapide en raison des changements climatiques et que Hydro devait investir massivement. Là, je comprends qu'ils sont passés de 65 à 73, mais pour réduire le nombre de pannes, tu as peut-être justement intérêt à investir encore plus pour faire le nettoyage, rendre les lignes électriques plus sécuritaires. Alors, Presse canadienne, une entrevue. Bon, aussi ce matin, dans la presse, on a une étude sur l'impact du transfert dans des cliniques privées, ce qu'on appelle le projet pilote en chirurgie. Alors, vous avez trois centres connus, Rockland MD, UpMedic à Laval et Chirurgie 1030 à Brossard. C'est quoi le principe? C'est assez simple. C'est qu'on parle de chirurgie mineure, chirurgie d'un jour. Vous êtes le patient, ça ne vous coûte pas un sou. Et pour que vous soyez traité plus rapidement pour cette intervention mineure, la plupart du temps c'est mineur, là, ben, on vous envoie dans une clinique. Une des trois cliniques. Puis là, c'est un projet pilote. Pourquoi on fait ça? Parce qu'à l'hôpital, la liste d'attente est longue Et il arrive fréquemment, puis vous le savez, vous êtes programmé, puis on vous dit à la fin de la journée, malheureusement, on ne peut pas vous opérer parce qu'il est arrivé un imprévu, parce qu'il y a eu un accident, parce qu'il manque de personnel. Autrement dit, on va vous donner une nouvelle date. Alors, conclusion sur la satisfaction des médecins. Puis je vous rappelle, là, ça ne coûte pas une scène aux patients. Au lieu d'aller à l'hôpital Sacré-Cœur, vous allez à Rockland MD. Alors, anesthésiste, 88 % de satisfaction. Chirurgien, 85 %. Gastro-entérologue, 64 % disent être en mesure de réaliser plus de cas. C'est sûr, parce qu'il n'y a pas d'imprévu. Comme dit Dr Sinot, qui est interviewé donc dans la presse, elle dit « Moi, j'avais des patients, une journée, je n'ai pas opéré, il y a deux personnes poignardées qui sont arrivées, qui ont pris la place de mes patientes. » Et là, c'est normal, tu es dans un centre de trauma. Est-ce qu'on a besoin d'aller dans un hôpital spécialisé pour des chirurgies mineures? La réponse, c'est non. Et je sais, le mot « privé » terrorise. Mais est-ce qu'on n'est pas plus efficace dans ce cas-là? C'est-à-dire que le médecin, c'est sûr que le médecin est bien content, là, parce qu'il va être payé pour chacune des interventions. Et ce qu'on remarque, c'est que, et je prends encore le cas du Dr Sinot, elle dit « je peux faire une liste complète d'interventions, c'est 6, 7, 8 patients que je peux faire ». Puis dans un hôpital, des journées, aucun, des fois deux, des fois trois, parce qu'il manque de personnel, parce qu'encore là, il y a eu des imprévus. Alors, est-ce qu'on va reconduire, là, le ministère, évidemment, et je me souviens de Mme Mécan en passant, qui était venue ici quand elle était candidate, puis j'avais dit, est-ce que vous allez poursuivre ces projets privés-là? Puis là, elle m'avait dit, non, 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 il faut rapatrier ça dans le secteur public. Elle fut rabrouée par son chef, maintenant premier ministre, M. Legault, j'ai dit non, non, on va continuer ça. C'est bien plus dans la philosophie de la CAQ. Continuer ça. Être efficace, soigner plus de patients. Et la clinique prend un profit de 10 % La question qui n'est pas dans le. Il n'y a pas de réponse dans l'article. On va comparer les coûts, là. Moi, on me dit que c'est moins cher dans les cliniques, que l'infrastructure est moins lourde, qu'il y a moins de frais et que ça revient, donc, c'est plus économique. Et je parle toujours de trucs mineurs. Alors, on verra ce que le ministre va décider de poursuivre ou pas. Bon, Journal de Montréal ce matin, Garda, la compagnie qui se trouve dans une situation un peu controversée. Alors, Garda aurait voulu, semble-t-il, payer un pot de vin pour obtenir un contrat qui est accordé par l'Union européenne pour la construction d'un camp sécurisé en Somalie. Alors, Garda n'était pas tout seul, faisait partie d'un consortium qui a remporté le contrat d'une valeur d'à peu près 150 millions, répartis sur 10 ans. Ça s'est passé en 2015. Et ce sont des informations donc qui circulent depuis déjà un certain temps. Il y a même des enregistrements où on entend clairement des gens dire, un ancien consultant de Garda, un général français, Cyril Clavert, qui évoque dans l'enregistrement le paiement de 3 millions de dollars pour remercier les responsables européens pour l'octroi du contrat. Puis là, là, on ne parle pas d'une dictature dans un pays africain ou peu importe. Là. On parle de l'Union européenne qui donne un contrat pour un camp en Afrique, en Somalie. Et là, il y aurait eu des pots de vin. Et là, l'expression utilisée, ce qui est quand même extraordinaire, c'est de remercier les responsables européens. Alors, ils ne sont jamais nommés. Qui sont-ils? Et là, paraît-il qu'entre autres, un député européen du Front national qui a reçu des paiements de 15 000 $ par mois d'une société partenaire de Garda. Et ces paiements ont été faits dans un paradis fiscal, bien sûr. Alors, est-ce que Garda a les deux mains dedans? Trop tôt pour le dire, mais il y a une enquête. Et surtout, qui sont les bénéficiaires? On commence à savoir qui donne, là. C'est un consortium dont Garda fait partie. Ce sont les allégations. Et il semble que l'enquête pourrait quand même faire avancer dans d'autres directions. En parlant d'enquête dans le soleil ce matin, là, vous savez que on étire avec l'histoire de Nathalie Normandeau, de Marc-Yvan Côté, puis des quatre co-accusés. La Cour suprême doit entendre le 16 mai l'appel de la journaliste Marie-Maude Denis qui veut faire casser le jugement de la Cour supérieure du Québec pour obliger faire témoigner ses sources journalistiques dans le procès, donc, qui découle d'une enquête de l'UPAC. Et là, ce matin, ce qu'on nous dit dans le soleil, c'est que les découvertes du Bureau des enquêtes indépendantes au sujet des fuites à l'UPAC sont majeures. Au point où le DPCP déconseille à la Cour suprême de trancher le litige sur les sources journalistiques parce que ni Radio-Canada, ni les avocats de Marc-Yvan Côté puis de Nathalie Normando sont au courant. Ils ont trouvé des affaires extraordinaires, supposément, sur les fuites. Et est-ce que ça voudrait dire, comme le prétend l'avocat de Marc-Yvan Côté, que les fuites sont de haut niveau, que c'est grave et que ça compromet l'indépendance de l'État, que c'est indigne pour l'État? Maudite bonne question. Et là, c'est à se demander précisément comment cette enquête-là avance, d'une part. Puis là, on recommande même de retourner devant le juge. Et moi, je vous le dis, là, ça va finir par un arrêt des procédures pour Nathalie Normando ou un retrait. Là, on est en train de gratter pour savoir qui a coulé l'information, ça vient d'où, quelle position stratégique au sein de l'UPAC. Et il paraît que, et je cite encore cet article du Soleil, que les découvertes en question sont majeures. Et rapidement, dans les autres nouvelles, Sri Lanka, on va en reparler un peu plus tard avec Fabrice de Pierrebourg, mais on a vu, ça fait 310 morts au moins, là, dans des églises, dans des hôtels, des chrétiens qui étaient touchés. L'état d'urgence a été décrété. D'autres arrestations ont été faites et on identifie une espèce de cellule islamique qui serait à l'origine de cet attentat. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que une des informations avait circulé au niveau des agences de renseignement avant les attentats, justement pour prévenir en disant « Écoutez, il y a quelque chose qui se prépare. » Alors, quel est le détail de ça? Comment ça se fait qu'on n'est pas intervenu? Est-ce qu'il y a eu problème de cohésion? Ce sont des agences étrangères, entre autres, qui ont donné le détail, mais il faut rappeler qu'au cours des dernières années, il y a eu, et on le sait, des églises chrétiennes à travers le monde qui sont ciblées par des attentats. On peut penser aux Philippines, on peut penser à l'Indonésie. En Inde, la minorité musulmane et chrétienne, justement, fait l'objet d'une certaine persécution. Bangladesh, c'est le même phénomène. Vous avez encore là des musulmans qui sont persécutés, des chrétiens. Dès que tu fais partie d'une minorité religieuse, disons que le harcèlement et la vengeance, et ça, c'est alimenté par les gouvernements, c'est pas juste là, des factions. Les bouddhistes sont également ciblés. Alors, et là, on verra justement ce que l'enquête va permettre de découvrir. Et juste vous dire également que Tesla promet le robot taxi d'ici les prochaines années. Ils disent 2 ans, soyons quand même patients, mais ça veut dire un taxi où il n'y a pas de conducteur humain. C'est le robot qui conduit. Déjà qu'on est en train, on a les deux pieds dans la crise du taxi là, au Québec. Imaginez-vous si dans quelques années, on arrive en disant aux chauffeurs, en passant, on n'a pas besoin de vous, là. Les robots sont capables de faire le travail. Alors, c'est à tout le moins la prétention de Tesla. On s'arrête pour la pause, 6h23. Toujours l'autoroute 40.